Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, bienvenue pour votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della Posta et avec Julien Pereira. Aujourd'hui, on va revenir sur ce Grand Prix du Mexique. Julien, on a beaucoup de choses à passer en revue après cette 19e épreuve de la saison. T'es prêt? T'as toutes tes notes?
Je suis prêt, comme jamais.
Alors, évidemment, le premier acte des fous du volant aujourd'hui, on va, après la victoire de Max Verstappen, hein, qui s'est imposé pour la 9e fois cette saison, eh bien, se demander tout simplement si Verstappen n'a pas pris un avantage décisif dans la lutte pour le titre. Et ensuite, dans un deuxième temps, là il va falloir être un petit peu concentré, on reviendra sur ce qui a été sans doute le moment clé dans ce Grand Prix, le départ, et même peut-être avant, avec les qualifications. Donc on reviendra un petit peu en arrière, on passera la marche arrière. Ça n'arrive pas souvent en Formule 1, mais il faut savoir la passer. Et on va essayer aujourd'hui. Puis dans la troisième partie, on aura un invité, un grand espoir du sport automobile français, en la personne de Théo Pourchaire, cinquième du championnat de Formule 2, avant les deux derniers rendez-vous de la saison. Il viendra rendre visite. Donc, au fou du volant, on verra quelles sont ses ambitions et comment ça se passe, la vie d'un aspirant pilote de Formule 1. On débute les fous du volant aujourd'hui, donc après cette 9e victoire cette saison au Grand Prix du Mexique de Max Verstappen, par cette question, est-ce que Max Verstappen a pris un avantage décisif pour le titre 2021 parce que, eh bien, il passe de 12 à 19 points d'avance au championnat sur Lewis Hamilton et surtout, hein, sur les trois derniers Grands Prix, il est passé d'un déficit de 2 points après le Grand Prix de Russie sur le pilote britannique à une avance donc de 19 points. C'est quand même un retournement de situation assez fort. Et j'ai envie de dire, Julien, pendant ce Grand Prix, alors il y a eu le départ, hein, il partait en troisième place sur la grille. On y reviendra, on vous l'a dit un petit peu plus tard dans le podcast, mais on va s'intéresser surtout pour l'instant aux conséquences. La dynamique, elle est vraiment, vraiment du côté de Max Verstappen. En ce moment, tout ce qui touche, ça se transforme en or.
Tout roule comme sur des roulettes du côté de chez Red Bull et de Max Verstappen. On se souvient qu'après le Grand Prix des États-Unis que Verstappen avait remporté, Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, avait dit pour faire un grand pas vers le titre, Verstappen doit gagner 2 des 5 derniers Grands Prix de la saison. Pourquoi il avait dit ça? Parce que sur le papier, il y avait 2 circuits a priori favorables à Red Bull. C'était le cas du Grand Prix du Mexique. Là, cette part-là du contrat a été remplie. Ce sera le cas aussi du Grand Prix de ce week-end au Brésil. Donc effectivement, si Verstappen s'impose au Brésil, il pourrait se permettre de finir 3 fois deuxième sur les 3 derniers Grands Prix de la saison. Et ce, même si Hamilton, lui, gagne ses 3 derniers Grands Prix et qu'il décroche même le point du meilleur temps en course. Il y a encore un facteur à ajouter à cette équation, c'est la fameuse course sprint qui aura lieu vendredi. Mais là aussi, sur le papier, effectivement, Verstappen est favori. Donc,
la course sprint, elle a lieu samedi, hein, pas vendredi. Hein.
Elle a lieu samedi, pardon, j'ai dit vendredi.
Autant c'est pas grave, c'est pas grave. ça permet de préciser.
Tout roule comme sur des roulettes. Et surtout, là, Verstappen a vraiment une occasion de mettre un grand coup de massue sur le casque d'Hamilton. Et ce qui est marquant, c'est que vraiment, tout se passe pour le moment comme Red Bull l'avait prévu, l'avait planifié.
C'était vraiment impressionnant, honnêtement, ce qu'on a vécu dimanche. Parce que il y a eu cette maîtrise totale de Max Verstappen pendant ce Grand Prix. À partir du moment où il a été en tête, on a vraiment vu un récital du Néerlandais. C'est ce que les Britanniques, les anglophones, appellent le momentum, hein, vraiment la dynamique Verstappen. Et je dirais même au-delà, il est d'autant plus serein que c'est même un momentum Red Bull, parce que dans le même temps, Sergio Pérez a vraiment pris la dimension de ce qu'attendait de lui l'équipe Red Bull en accompagnant à chaque fois son coéquipier sur le podium. C'est la troisième fois de suite qu'on retrouve les deux Red Bull sur le podium. C'est pas arrivé très très souvent dans l'histoire de Red Bull. Hein. C'est seulement la quatrième fois dans l'histoire de Red Bull, donc depuis 2005, que ça arrive. Et la première fois depuis 2013, hein, il fallait remonter à l'époque des quatre titres consécutifs de Sébastien Vettel. Donc là, vraiment, il y a une sorte d'alchimie qui est en train de s'opérer entre Verstappen et sa voiture et son équipe. Ça fait longtemps. Mais maintenant aussi, Sergio Pérez, qui était en plus dans un état second devant son public, Sergio Pérez qui a fait trembler Lewis Hamilton. Hein, il est revenu tout près du Britannique pour essayer de lui arracher la deuxième place. Hamilton a fini quand même par résister et par aller prendre la deuxième place. Mais en préparant ce podcast avec toi, Julien, on a le même sentiment. Hein. Il y a un côté un petit peu chape de plomb qui est tombé alors là au Mexique, mais on l'avait déjà senti, on l'a même évoqué pendant le Grand Prix des États-Unis à Austin, où il a fallu que Toto Wolff dise à la radio à Lewis Hamilton, « Lewis, tu peux gagner ce Grand Prix », comme s'il avait besoin de le relancer. Et là, c'est pareil, on a des signes où un petit peu peut-être de fatigue, de découragement de Lewis Hamilton et de l'équipe Mercedes dans son ensemble.
Ouais, tu l'as dit, tu parlais de Pérez. On dit beaucoup que Pérez, pour l'instant, n'arrive pas à s'immiscer devant Hamilton. N'empêche que ce qu'il a fait dimanche, ça a fait dire à Hamilton, ces gars-là sont trop rapides pour nous. Il n'a pas dit Verstappen est trop rapide pour nous, il a dit ces gars-là. Donc vraiment, il y a un sentiment, il y a une forme de pessimisme chez Mercedes. Chez Hamilton aussi, on l'a beaucoup entendu à la radio dimanche. On l'a entendu aussi sur ses interviews d'après-course. Il y a une forme d'impuissance. En fait, le mot, c'est une forme d'impuissance. C'est qu'on sent que l'écart est de plus en plus grand, en tout cas pour l'instant, et que ce soit pour Hamilton, voire même pour Mercedes, on a du mal à voir comment on pourrait de nouveau renverser la vapeur.
Alors après, il y a même Toto Wolff hein, qui a carrément dit après le Grand Prix que l'équipe Mercedes avait une voiture pour faire la troisième place et que finalement, prendre la deuxième position, c'était la meilleure opération possible. Je me demande si on ne grossit pas volontairement le trait aussi du côté de Mercedes. Alors sans doute pas pour Lewis Hamilton, qui est quelqu'un de très intelligent, mais qui n'est quand même pas acteur studio à ce point-là. Mais pour vraiment faire endosser le rôle, non seulement de favori, mais d'équipe à battre à Max Verstappen et à Red Bull. Parce que on le voit, il ne change pas, Max Verstappen. Il n'arrête pas de dire « Non, le chemin est encore long. Il faut continuer de piloter exactement comme on le fait, continuer de travailler. » Or, le plus gros danger qui peut arriver à Verstappen, c'est d'un seul coup de se dire « Oh là là, mais je peux devenir champion du monde. » C'est peut-être là-dessus qu'on joue chez Toto Wolff et chez Mercedes en disant « Bah là, vous y êtes presque, les gars. Nous, on est battus, ça y est. »
Oui, de toute façon, le jeu du grand bluff entre Mercedes et Red Bull, il dure depuis le début de la saison. Il dure même à l'intérieur des week-ends, on va en reparler avec la qualification, mais effectivement, c'est un fil à tirer pour Mercedes parce qu'il n'y a plus beaucoup de solutions. On est quasiment arrivé au bout, et pour ne pas dire qu'on est arrivé au bout du développement des machines. Donc oui, il faut tirer tous les fils possibles pour essayer de déstabiliser Verstappen, qui pour le coup est peut-être le pilote le plus difficile à déstabiliser. On verra comment ça se passera en fin de saison, mais pour l'instant, il est quasiment imperméable à la pression. Il n'a jamais fait de grosses erreurs et on voit que au contraire, plus il y a de l'enjeu, plus le titre se rapproche, plus il semble fort finalement.
Exactement. Alors 19 points d'avance, sachant qu'une victoire c'est 25 points, c'est ce qui a motivé un petit peu qu'on se pose cette question. Est-ce qu'il a pris un avantage décisif? Ça fait quasiment un joker avec 4 grands prix encore à négocier. Pourtant, un abandon, ça peut très très vite arriver. Et puis juste avant qu'on se mette à enregistrer, Marion Rabot, qui travaille avec nous pour préparer l'émission, disait mais en fin de saison l'année dernière, Lewis Hamilton, il a loupé un grand prix à cause de la Covid. Ça peut aussi arriver à Max Verstappen. T'imagines un petit peu la pression qu'il doit y avoir sur l'entourage de Max Verstappen, parce que à la rigueur, perdre le titre sur la piste, bon, c'est terrible, mais ça fait partie du jeu. tu te réveilles au Brésil, en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi avec, ou au Qatar, d'un seul coup avec de la fièvre et avec un résultat positif, et tout s'arrête.
Oui, oui, de toute façon, on parlait du plan qui est très conjoncturel de Marco sur les 5 derniers Grands Prix, mais il y a tout un tas de facteurs. Évidemment qu'il y a de très grandes chances que ça ne se passe pas comme Red Bull l'a prévu. Parce que tu l'as dit, il peut y avoir des facteurs extérieurs et puis il y a aussi le facteur mécanique. On sait que les pièces, les machines sont soumises à rude épreuve depuis de longues semaines, que le Grand Prix du Mexique en altitude n'a rien arrangé et que chaque écurie est sur un fil, peut-être même Mercedes un petit peu plus que Red Bull, mais il faut surtout pas croire que Red Bull est dans un confort et dans son fauteuil. Les deux écuries sont sur un fil et les deux pilotes, que ce soit Hamilton et Verstappen, sont aussi sur un fil, sont au maximum de ce qu'ils peuvent fournir en termes d'efforts.
Alors, je vais te proposer un exercice. Là, pour le coup, on ne l'a pas préparé. Il faut répondre maintenant à cette question. Oui ou non, est-ce qu'il a pris un avantage décisif, Max Verstappen, sur Lewis Hamilton, d'après toi?
Alors, pour moi, non. en revanche, je pense qu'on pourra possiblement le dire oui la semaine prochaine. Pour moi, tout se joue finalement sur ce Grand Prix-là, ce Grand Prix du Brésil. Parce que je pense que Mercedes a quand même l'intention d'essayer de faire quelque chose. L'avantage de Red Bull au Brésil, théoriquement, ne doit pas être aussi grand qu'il ne l'était au Mexique. Donc, pour moi, ce Grand Prix-là, le Grand Prix qui arrive ce week-end, sera importantissime, pour ne pas dire décisif.
Ah ben je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est encore trop tôt. Parce que, à mon avis, il va encore se passer des choses. Et là, je ne sais pas si c'est une analyse ou un souhait, mais je pense que ça va vraiment se jouer sur la dernière course et qu'il va y avoir encore des rebondissements parce que on n'arrête pas d'avoir vraiment un phénomène de balancier entre Red Bull et Mercedes. Et on sent que là, ça se joue à rien, que la pièce est sur le point, tu sais, de choisir son côté et de tomber définitivement. Et on peut avoir encore des surprises, surtout qu'effectivement, le Brésil, c'est un week-end un petit peu particulier avec un format spécial. Il y a cette course de qualification le samedi. Ça veut dire que potentiellement, il y a un petit peu plus de points aussi à aller chercher. Ce n'est pas le jour et la nuit. Hein. Il y a 3 points à aller chercher en course de qualification en plus des 25 qu'on peut, des 25 plus 1 qu'on peut marquer le dimanche. Donc effectivement, après le Brésil, on peut avoir sans doute une tendance un peu plus forte, ou alors au contraire, se dire que tout est relancé.
Repartir à zéro.
Exactement, enfin, c'est passionnant finalement.
Totalement, et puis sur la projection qu'on vous a montrée en début d'émission, que vous pourrez trouver sur le site d'Eurosport.fr, si Verstappen gagne ce week-end devant Hamilton et que c'est l'inverse sur les 3 derniers Grands Prix, et qu'Hamilton décroche tous les meilleurs tours en course, il n'y aura qu'un petit point qui séparerait les deux pilotes. Donc là, ça serait vraiment extraordinaire. Mais oui, je pense qu'on peut le souhaiter. En tout cas, on peut souhaiter que ça continue jusqu'au bout, jusqu'au dernier Grand Prix.
Exactement. Si ça peut se jouer à un point, cette couronne 2021, honnêtement, on est preneur. Et je pense que tous les amateurs de Formule 1 signeraient dès aujourd'hui. Hein, les demain, OK, bref. Allez, on va passer à notre deuxième sujet dans les fous du volant aujourd'hui, Julien. On va s'intéresser plus particulièrement à ce qui s'est passé samedi, parce que avant le départ de ce Grand Prix du Mexique, remporté par Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez, il y a eu quand même une sorte de coup de tonnerre samedi, avec la première ligne qui a été totalement monopolisée par les Mercedes, alors que jusque-là, il faut bien reconnaître qu'elle se faisait découper en tranches par les Red Bull sur les 3 premières séances d'essais libres. Et c'est quand même... Tout le monde a été très, 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 très surpris de voir cette première ligne se former. En plus, Bottas devant Lewis Hamilton, il a fallu une manœuvre magistrale, honnêtement, de Max Verstappen pour... passé en tête dès le premier virage, il a pris l'avantage sur les deux pilotes Mercedes. Et j'ai envie de dire, ce premier enchaînement là au Mexique, après cette longue ligne droite, c'est un peu le jardin de Max Verstappen. C'est un endroit où il a l'habitude de s'illustrer, Julien.
Ah, c'est le virage Verstappen par excellence. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a cette longue ligne droite avant, donc il y a beaucoup de possibilités d'aspiration. La piste est très large aussi, donc il y a plusieurs possibilités de freinage. C'est typiquement le virage où celui qui freinera le plus tard en sortira en tête. Et c'est typiquement ce que Verstappen adore. C'est pas un hasard si depuis 2016, il s'est toujours passé quelque chose impliquant Verstappen au virage numéro 1 au Mexique.
On détaille, si tu veux bien.
On peut le détailler.
C'est toi qui as fait le relevé. Alors, je te laisse nous narrer ce qui s'est passé ces dernières années dans ce premier enchaînement du circuit des frères Rodriguez.
Bah, je suis sûr que nos auditeurs vont s'en souvenir, mais en 2016, il y avait eu un petit accrochage avec Rosberg. En 2017, c'était un dépassement un petit peu musclé sur Verstappen, qui avait fait un petit peu de casse sur Vettel, pardon, qui avait fait un petit peu de casse sur la Ferrari. En 2018, il y avait eu une belle bataille en roue dans roue avec Hamilton, même si Hamilton avait conservé l'avantage après le virage numéro 1. Et il y a 2 ans, donc la dernière édition du Grand Prix du Mexique, puisque l'année dernière, il n'y avait pas eu de Grand Prix du Mexique en raison de la pandémie, il y avait eu ce coup-ci un vrai accrochage avec Hamilton. Donc ça fait beaucoup pour que ce soit un hasard, et ça montre que vraiment, je pense que quand on a Verstappen dans les rétroviseurs, sur la grille du Grand Prix du Mexique, bah, on se méfie un petit peu parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose.
Eh bien, alors oui, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais n'empêche qu'on peut s'appeler Valtteri Bottas et quand même se faire piéger, parce que clairement, tout le monde s'est dit, en voyant les deux Mercedes sur la première ligne, bon, et comme l'avaient fait d'ailleurs à leur époque les deux Ferrari, bon, bah, il suffit vraiment d'occuper toute la place sur la ligne droite. Et puis normalement on se fait pas déborder, sauf que je sais pas si tu as eu ce sentiment, mais Bottas, on a quand même eu l'impression qu'il avait un peu plus envie d'aller vers la droite et de bloquer Hamilton, et il a laissé, ça lui est sorti de l'esprit que c'était Verstappen derrière, et le dixième de seconde de manque de lucidité, bah, Verstappen il y va, et Verstappen est passé à l'extérieur, il s'est retrouvé finalement sur la bonne trajectoire, hein, pour prendre le premier virage, ça lui a permis de freiner beaucoup plus tard que les deux Mercedes, et l'action décisive de ce Grand Prix était déjà réalisée.
Ouais, ce qui est marrant, c'est de voir que finalement, que ce soit Mercedes ou Red Bull, les deux écuries se sont étonnées du départ de Bottas. Toto Wolff a dit chez nos confrères de Sky Sports qu'il avait trouvé ça très étonnant, que ça n'aurait pas dû arriver. Et Horner a remercié, a salué, oui, le fair play de Bottas, ce qui est quand même très rare pour un dirigeant de Red Bull de saluer le respect, le fair play d'un pilote de l'écurie Mercedes. Mais effectivement, sur les deux dernières éditions 2019-2021, on a eu les deux contre-exemples. Leclerc avait réussi un départ parfait où il avait d'abord fermé la porte à Hamilton qui s'est lancé troisième avant de se déporter sur la droite pour garder le point de corde, quitte à risquer l'aspiration, il y avait Vettel derrière lui. Et puis, on a eu tout le contraire en 2021, donc le week-end dernier, où là, Bottas n'a pas vraiment fait de choix, finalement. Il est plutôt resté sur sa trajectoire. Ça a ouvert la porte à Verstappen. Ça a permis à Hamilton de s'insérer aussi. Donc, effectivement, s'il y avait eu un petit plan de fait chez Mercedes, j'imagine que ce n'était pas celui-ci.
Non, ça, clairement, ce n'était pas prévu comme ça, surtout qu'en plus, Valtteri Bottas se fait après percuter par Daniel Ricciardo, qui rend d'ailleurs indirectement un très très bon service à Red Bull en éliminant finalement Bottas de toute stratégie potentielle pour Mercedes. Moi, j'ai été un petit peu étonné quand même, parce que tu vois, on vient de passer en revue tout ce qui est survenu ces dernières années et depuis qu'on est retourné au Mexique. Et j'ai été très surpris de l'énergie dépensée par Mercedes pour se retrouver en première ligne de ce Grand Prix du Mexique où la ligne de départ et le premier virage sont très, très, très éloignés. C'est comparable à Sochi, et où on sait, alors même si ce n'est pas une science exacte, mais où on sait que l'aspiration, finalement, eh bien, donne régulièrement, c'est pas majoritaire, mais donne régulièrement la possibilité à ceux qui s'élancent en deuxième, voire même en troisième ligne, de gagner des places. Et j'ai été surpris, alors surpris à double titre, déjà parce que je ne m'attendais pas à ce que Mercedes quand même fasse mieux en Q3 que les Red Bull, ça personne ne s'y attendait, mais finalement, tout de suite, tu te dis, est-ce que c'est pas un piège doré dans lequel est tombé Mercedes en vraiment donnant tout, et je pense qu'on a à peu près la même lecture de l'événement, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre un peu plus les moteurs Mercedes pour les qualifications, et après on essaye de vraiment se limiter parce qu'on n'a plus le droit de changer de moteur jusqu'à la fin de la saison. Mais moi, honnêtement, je pense que Mercedes est tombé dans un piège doré en prenant ses deux premières places sur la grille de départ. C'était sur le papier, c'était sans doute pas comme ça, mais à l'arrivée, quand on se retrouve avec un Verstappen fort comme il est, c'était presque écrit d'avance en fait que ça allait se retourner contre Mercedes.
Oui, mais tu l'as dit, de toute façon, toute la réflexion est là, c'est que tout le monde a été surpris de cette qualification, aussi bien Red Bull qui était déçu, qui a parlé de sous-performance, que Mercedes qui a été surpris. On a vu la réaction d'Hamilton juste après à la sortie de sa voiture, où on a bien compris que lui ne s'attendait pas à être en première ligne. Il y a plusieurs facteurs, c'est pas très clair. Les deux écuries ont évoqué plusieurs arguments. On a parlé de la fenêtre d'exploitation des pneumatiques. On a compris que Verstappen, sur le pneu le plus tendre, n'était pas forcément le plus à l'aise. On sait aussi que Mercedes a réduit et va continuer de réduire les performances moteurs le vendredi, parce qu'il faut préserver les pièces et qu'il faut surtout pas, et qu'il faut surtout éviter la casse moteur, quitte à remettre un bon coup, comme tu l'as dit, le samedi. Et puis, il y a cet épisode de Tsunoda qui, pour moi, finalement, n'est pas si significatif qu'on veut le faire croire. Je pense que Verstappen n'aurait pas eu la pole même sans ce petit écart. Donc, ce n'est pas très clair, mais effectivement, à l'arrivée, Mercedes s'en serait peut-être mieux sorti si la hiérarchie avait été respectée, en tout cas la hiérarchie qu'on attendait le samedi.
Celle qui était finalement prévisible. Et d'ailleurs, si tu regardes bien dans les déclarations dès le vendredi soir, hein, Christian Horner, le patron de Red Bull, disait « on a fait une bonne journée, mais Mercedes en garde sous le coude ». On s'est très très bien analysé d'une équipe à l'autre le niveau de puissance qu'on exploite hein, sur les moteurs. Il y a des tas de choses possibles et c'est d'ailleurs passionnant quand on commence à côtoyer des ingénieurs pour finalement arriver à espionner ce que fait l'adversaire. Par exemple, avec le bruit d'un moteur, les ingénieurs arrivent à déterminer finalement le degré de puissance que l'adversaire demande à son propre moteur. Je ne l'ai pas vu faire en Formule 1, je l'ai vu faire au Mans, à l'époque où il y avait la bagarre entre les Peugeot, les Audi, les Porsche, les Toyota, quand il y a eu les 3 ou les 4. Et ça, c'était vraiment passionnant. Évidemment, on fait ce genre de choses en Formule 1 et j'imagine qu'il y a des moyens qu'on ne soupçonne même pas. Mais bon, Christian Horner était bien conscient de cela. Là, ça va être intéressant de voir. Hein, je parlais tout à l'heure d'un mouvement de balancier parce que à Austin, c'était Mercedes qui avait mieux débuté le week-end et puis finalement, Red Bull avait réussi à inverser la tendance. On a eu l'explication avec Sébastien Buemi qui est venu nous dire le travail qui avait été fait en coulisses chez Red Bull pendant le week-end aux États-Unis. Là, ça a été pareil. Enfin, plutôt l'inverse. Red Bull qui débute bien le vendredi. La revanche de Mercedes le samedi, et puis en course, on a vu qu'il n'y avait pas photo. Ça participe finalement à l'intérêt incroyable de cette saison où, d'une séance à l'autre, on ne sait pas totalement à quoi s'attendre.
Oui, et c'est quelque chose, je trouve, qu'on évoque assez peu parce qu'on parle beaucoup du niveau de Verstappen et d'Hamilton en disant que ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu deux pilotes à ce niveau-là en même temps. Je pense que ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pas vu deux écuries à ce niveau-là en même temps. On voit bien, et c'est ce que Buemi disait très bien la semaine dernière, dans le podcast de la semaine dernière, que ça joue à rien, qu'il y a des fenêtres, il suffit d'un réglage, d'une fenêtre de température de pneumatique, d'un changement d'adhérence de l'asphalte. Enfin, il y a vraiment tout un tas de facteurs qui peuvent influencer et complètement inverser le rapport de force. Et c'est aussi ce qui fait que cette saison est passionnante, effectivement.
Et tu as tout à fait raison hein, sur ce bras de fer entre les deux équipes, Mercedes et Red Bull, qui, après ce 18e Grand Prix de la saison, ne sont plus séparés que par un point au classement des constructeurs. Hein, 478,5 points pour Mercedes, 477,5 pour Red Bull. C'est complètement fou, vrai. C'est fabuleux.
C'est fabuleux, et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et à ce niveau-là, honnêtement, c'est, enfin, on peut être qu'admiratif, hein, de toute façon.
Et d'ailleurs, c'est presque même frustrant, parce qu'on pourrait vous faire une émission des Fous du Volant qui dure 4 heures, parce qu'il y a effectivement un point d'écart entre les deux premières équipes, mais derrière, entre Ferrari et McLaren, ça s'est encore resserré. Il y a moins de 15 points entre les deux équipes qui visent la troisième place du championnat. Alpine et AlphaTauri sont en train de se retrouver quasiment à égalité aussi. Enfin, cette fin de saison, elle va être à tous les niveaux absolument passionnante, à commencer par ce Grand Prix du Brésil, où traditionnellement la météo vient aussi de temps en temps jouer les troubles faits. On dit que c'est un circuit qui va donner l'avantage à Red Bull. Qui sait, on a quand même eu pas mal de surprises hein, sur ces derniers Grands Prix. À chaque fois, on disait là, c'est le terrain pour Mercedes, là, c'est le terrain pour Red Bull. Et puis régulièrement, c'est parti dans l'autre sens.
Oui, après, c'est vrai parce que, en règle générale, Red Bull est plutôt une écurie sûre d'elle. Quand elle sait qu'elle est favorite, elle n'hésite pas à le dire. Là, elle prend quand même beaucoup de pincettes, que ce soit Horner ou Marco, c'est toujours. C'est favorable, ça nous est favorable sur le papier. Il y a toujours le sur le papier qui arrive au bout. Après, il y a quand même un constat à faire, c'est que sur les grands prix en altitude, que ce soit à Spielberg notamment ou ce week-end, Verstappen a toujours fini par s'imposer. Et ça montre quand même qu'il est le grand favori ce week-end. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au Mexique le week-end dernier.
Je lisais une statistique, hein, d'ailleurs, Max Verstappen, cette saison, il a remporté les 3 Grands Prix les plus hauts en altitude qui se sont déjà disputés, effectivement. Tu as parlé de Spielberg, donc il y a eu le Mexique. Et puis officiellement, Spa est aussi un des Grands Prix les plus hauts en altitude. Bon, est-ce qu'il a vraiment gagné le Grand Prix de Belgique cette année? En tout cas, il en a été déclaré vainqueur.
J'ai pas voulu lancer la polémique.
Ah, on peut y revenir. Pour la troisième partie des Fous du Volant aujourd'hui, on reçoit un invité qu'on est ravi d'accueillir d'ailleurs, Théo Pourchaire. Bonjour Théo.
Bonjour.
Alors vraiment, on est très content. Pilote Art Grand Prix avec évidemment comme patron Fred Vasseur, même si c'est plus vraiment lui hein, qui gère. Lui maintenant, il est chez Alfa Romeo, cinquième du championnat de Formule 2 actuellement, un championnat qui n'est pas terminé. 2 victoires cette saison, Monaco et Monza, le plus jeune Grand Prix d'ailleurs en Formule 2 à 17 ans, 9 mois et 2 jours, membre de l'Académie. Sauber, donc, qui nous rejoint aujourd'hui. Théo, on en est où exactement? Est-ce que on te verra dans un baquet de Formule 1 la saison prochaine? Allons-y, franchement, dès le début.
Eh ben, je vais essayer de dire ce que je peux dire. Après, voilà, moi, j'ai voilà, la saison, elle n'est pas encore terminée de Formule 2. J'espère la gagner. Il reste encore 2 courses, c'est long. Malheureusement, bon, c'est vrai que ce qui est en ma défaveur cette année, c'est le calendrier de F2. J'ai fait quand même une belle saison, vainqueur, plus jeune vainqueur de l'histoire de la F2, vainqueur à Monaco, vainqueur à Monza. Donc, pour moi, je mérite ma place en F1. Après, voilà, c'est pas que la performance qui décide d'une place en F1. Il y a beaucoup de paramètres à gérer. Et voilà, mais on verra. Une annonce sera faite mardi prochain normalement. Donc voilà. Après moi, j'ai eu déjà plein de discussions avec les patrons de l'écurie, donc je connais déjà un peu mon avenir.
On rappelle que tout dépend pas de toi, Théo. Il y a une place libre, on l'a dit, chez Alfa Romeo pour la saison prochaine. Il y a d'autres candidats. Il y a Giovinazzi qui est toujours un candidat théoriquement à ce baquet. Il y a 2 candidats en F2, Piastri et Zhou, qui sont respectivement premier et deuxième de F2. On a cru comprendre que pour Piastri, ça allait être un petit peu compliqué. Zhou, qui est lui aussi un membre de l'Académie Alpine, a un soutien financier. Et forcément, ça compte pour une écurie comme Sauber Alfa Romeo. Donc, on a bien compris que tout dépendait pas de toi. Est-ce que toi, tu te sens prêt, en tout cas, à aller en F1, que ce soit dès la saison prochaine ou plus tard?
Bien sûr, moi je me sens prêt à aller en F1 dès la saison prochaine. Après, comme je l'ai dit, ça ne dépend pas forcément que de moi. Et c'est ça un peu qui est un peu triste dans la F1. Mais c'est comme ça, c'est un monde compliqué. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et voilà, pour moi, j'ai tout donné cette année. Je pense que j'ai fait une belle saison. Ce n'est pas fini encore une fois. C'est vrai, voilà, j'ai eu la blessure à Bakou, j'ai eu pas mal de soucis, mais je suis globalement satisfait. Je pense que je mérite ma chance en F1. Après, bien sûr, il y a beaucoup de concurrents. Piastri, il a fait une superbe saison aussi. Et il y a Guan Yu Zhou, bien sûr. Guan Yu Zhou qui lui, a une belle aide en plus. une belle aide, voilà, beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Donc, ça, c'est aussi, ça fait partie de la F1, hein, c'est comme ça. Mais bon, ça va. Moi, j'ai discuté avec les patrons de Sauber, Alfa Romeo Racing, et ils m'ont proposé quelque chose de très bien, donc je suis content.
On va revenir, hein, Théo, si tu veux bien, sur une déclaration qu'a fait Fred Vasseur, donc le patron d'Alfa Romeo Racing. C'était il y a quelques heures au micro de notre confrère Julien Febraud de Canal, qui dit: « Je veux que Théo ait les armes en main pour arriver en Formule 1. On réfléchit à lui faire un programme d'essai solide en F1, autrement dit en 2022. » Bon, ce qu'on comprend, c'est que ça sera pas pour l'année prochaine. Comment tu vois ça? On comprend bien le raisonnement, hein, de Fred Vasseur. C'est de dire, en gros, faut pas griller un jeune pilote. C'est un vrai danger, ça, d'arriver finalement trop vite, trop frais, pas prêt en Formule 1?
Oui, clairement, ça, c'est un vrai danger. Après, moi, je connais mes capacités. Je sais que c'est un team de Formule 1. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et après, moi, j'ai le sentiment de pouvoir m'adapter en fait rapidement à chaque catégorie. Enfin, je peux faire ça. C'est une capacité que j'arrive à mettre en place. C'est pas simple. J'essaie de travailler énormément pour m'adapter chaque année. Mais voilà, je pense que la F1, je peux m'adapter rapidement aussi. Après, c'est vrai. Moi, mon rêve, mon plus grand rêve, c'est d'être champion du monde de Formule 1. C'est pas juste de rouler en F1. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Fred. Et on était totalement d'accord là-dessus. Lui, il veut pas m'amener en F1 pour que je fasse deux saisons et que je sois un pilote moyen en F1. Il veut absolument qu'on construise une histoire ensemble. Moi, mon rêve, c'est d'être champion du monde. Ça va peut-être jamais arriver, mais en tout cas, je veux avoir le potentiel pour être champion du monde un jour. Et c'est hyper important d'arriver prêt, d'avoir fait beaucoup d'essais dans des F1. Avant de faire une saison entière, ça c'est totalement vrai.
Alors, du coup, c'est pour ça que tu pourrais te satisfaire d'un vrai plan de développement la saison prochaine. C'est ce qui te permettrait de patienter, finalement, d'accepter de devoir attendre une saison de plus.
Bien sûr, bien sûr. Pour moi, ça fait partie du plan, d'un des plans, en tout cas, qu'on m'a proposé du côté d'Alfa Romeo Racing. C'est sûr que de faire beaucoup d'essais en F1, d'être prêt, pourquoi pas des FP1, plusieurs FP1, c'est une très bonne solution pour commencer à s'adapter à l'écurie, pour commencer à travailler dans une écurie de F1 et aussi s'adapter à la voiture, nouvelle réglementation de voiture qui est pas simple. J'ai l'occasion de pouvoir le faire déjà sur le simulateur, mais ça change quand même énormément. Et donc oui, voilà. Après, c'est vrai qu'il reste deux courses de F2. Moi, j'ai du mal à me projeter énormément dans le futur comme ça. Pour moi, le futur, c'est Jeddah et Abu Dhabi, les deux dernières manches de F2, et je peux gagner le titre encore. Donc, je donnerai tout pour ça.
Alors, on va en parler de cette fin de saison en F2, parce qu'effectivement, il reste deux meetings, l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi. 58 points de retard sur le leader du championnat. Il y en a un peu plus de 120, c'est ça, à distribuer. Mathématiquement, c'est encore jouable, même si en étant cinquième du championnat, il faudrait avoir un peu de réussite aussi. Mais est-ce que tu y vas pour aller chercher le titre? Dans quel état d'esprit tu es?
Oui, j'y vais pour chercher le titre. Après, d'un autre côté, je pense pas trop au titre. Je pense plus à j'y vais pour gagner des courses, j'y vais pour faire des pole positions, j'y vais pour faire des beaux dépassements, des belles remontées, pour prendre du plaisir et faire des très belles courses, une belle fin de championnat. Pourquoi pas être l'homme fort de la fin du championnat, simplement. Après, je sais que le titre, ça va être compliqué. Piastri a beaucoup d'avance, mais bon, tant que c'est jouable, il y a 130 points, je crois, quelque chose comme ça à prendre encore. Donc, c'est largement jouable, mais je ne baisserai pas les bras.
On va parler justement, si tu le veux bien, de ce qu'est la vie, ta vie, d'un pilote qui veut devenir pilote de Formule 1 et qui est donc en Formule 2. C'est vraiment l'antichambre. On sait que depuis quelques années maintenant, on ne peut pas rouler énormément. J'imagine que tu ne fais pas des milliers de kilomètres. Il y a eu une trêve là de plus de 2 mois hein, entre la Russie, qui a été la dernière épreuve en date de la Formule 2, et le prochain rendez-vous à Jeddah en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 mois? Qu'est-ce que tu fais? Comment sont réglés tes jours, tes semaines en tant que pilote de Formule 2 et prétendant à la F1?
Eh bien, pas grand-chose, malheureusement. C'est vrai que le calendrier de F2 cette année est un peu catastrophique, hein. C'est le cas de le dire. On a beaucoup, beaucoup d'écart entre les courses. Et là, 2 mois et demi, c'est très, très long. J'ai eu la chance de développer la F4 2022 de la FFSA Academy, donc ça c'était sympa. Voilà, j'ai pu rouler un peu en F4 aussi pour voilà, la sélection Women in Motorsports qui a eu lieu au Castellet. J'ai roulé un peu en F4 française. Bon, c'est de la F4, mais c'est quand même du roulage. Voilà, j'ai pris du plaisir, c'était marrant. Et à part ça, beaucoup de simulateurs F1. Là, j'y suis actuellement. Je suis à Einwil en Suisse. Et voilà, demain, après-demain, je fais 2 journées de test avec Sauber. Ensuite, je passe mon permis, mon code là, donc en ce moment aussi. Donc, j'essaye de trouver des occupations. Hein. Voilà, c'est comme ça.
Sur le permis, tu m'en avais parlé, on s'était appelé au début de l'été, je crois. Je crois que tu n'avais pas encore ton code à ce moment-là. Tu en es où là?
Et malheureusement, j'ai toujours pas de code. Donc là, je dois me bouger un peu. Mais ça va, au moins ça me fait passer le temps et puis c'est important hein, d'avoir le permis. Pour moi, c'est un objectif cette année. Et puis au moins avoir le code là en fin d'année, faire les 2 dernières courses et ensuite passer le permis en début d'année prochaine. Et j'aurais fait une belle partie déjà.
Je pense qu'il faut mettre une caméra cachée dans la voiture parce qu'il va falloir voir la tête de l'examinateur qui va te faire passer l'examen de conduite. Quoi.
Il ne doit pas être serein.
Mais ceci dit, c'est une vraie question que les gens se posent, que les gens se posaient avec Max Verstappen notamment. C'est est-ce que les pilotes arrivent à faire la part des choses entre une voiture de tous les jours et une voiture de course? Comment ils se sentent au volant? Est-ce qu'ils ont l'impression que tout va trop lentement? C'est vraiment des questions qui reviennent auprès du grand public. Et si tu peux nous donner ton avis là-dessus, justement, est-ce que toi, tu arrives à faire la part des choses et à te rendre compte que oui, c'est la vie normale, il y a la vie normale et puis il y a la vie d'un pilote de Formule 1, enfin de pilote de monoplace?
Oui, non, bien sûr. Non. Après, moi, j'arrive à faire la part des choses. J'essaye de conduire normalement sur la route, proprement, respecter les règles. C'est pas simple, mais c'est important. Et après, bon, bah, pour ce qui est de la conduite, conduire une voiture, je pense pour tous les pilotes, ça, c'est tout à fait faisable, quoi. C'est pour nous, c'est facile. Voilà, accélérer, freiner, tourner, passer les vitesses, ça va. Par contre, pour tout ce qui est le code de la route, voilà, les priorités à droite, enfin les piétons qui traversent, les stops, tout ça. Franchement, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple et c'est deux choses totalement différentes. La course et le permis, quoi, la route.
Écoute, pour avoir partagé soit la voiture, soit même la moto avec plusieurs pilotes, tu serais peut-être le premier à conduire normalement parce que vous avez un truc avec la conduite. On va revenir sur ton emploi du temps de pilote donc chez Sauber. Comment ça se passe? Tu as un programme à la semaine avec des heures de simulateur. Qu'est-ce qu'on te fait travailler? Enfin voilà, plein de questions.
Ben, alors, ça dépend. Voilà, c'est pas toutes les semaines que je suis au simulateur à Einwil. J'y vais quand même régulièrement. Cette année, j'ai dû faire une 20aine de journées. Donc, ça prend du temps. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est des grosses journées. On fait en général un bon 250 tours par jour. Donc, c'est épuisant quand même le simulateur. C'est pas c'est pas la réalité non plus, mais c'est très épuisant voilà, de rester dans le noir toute la journée et de rouler sans s'arrêter. Donc, c'est très long. Mais en même temps, voilà, moi, ça me permet aussi de m'améliorer au niveau pilotage, au niveau, développer mes compétences techniques. C'est vrai que la Formule 1, il y a beaucoup, beaucoup de boutons sur le volant, beaucoup de réglages à faire et on peut changer le setup de la voiture en roulant. Donc, ça me permet vraiment de me développer, apprendre plein de choses. Et aussi, pour les ingénieurs, c'est super utile. Eux, ils essayent plein de trucs, ils essayent des setups pour les courses à venir. Là, j'y suis, on a le, voilà, on a le Grand Prix du Brésil qui arrive et je pense qu'on va sûrement tester des choses pour le Grand Prix du Brésil et pour la voiture 2022. Là, on est beaucoup sur la voiture 2022 en ce moment. C'est une nouvelle réglementation. Ils ont besoin de beaucoup de données parce que c'est, il me semble qu'il n'y a que 3 jours d'essai ou 4 jours de test avant saison. Donc, il faut être prêt. Hein. Il faut que la voiture elle soit prête et il faut qu'elle soit performante dès le début. Donc, c'est le simulateur pour ça, c'est hyper important.
Ça veut dire que ce n'est pas que de la formation, en fait. Tu es déjà quelque part dans l'équipe d'exploitation Sauber.
Oui, clairement. Clairement, je suis déjà, depuis mon test en fait, à Budapest en F1, j'ai découvert la F1, on va dire. Et du coup, j'ai tout ce ressenti que je n'avais pas avant et que je peux exploiter au simulateur. Je sais que comment ça réagit en réalité une F1 et maintenant je peux l'appliquer au simulateur et aider encore plus les ingénieurs. Donc c'est hyper important de bien travailler, d'être super précis avec eux parce que ça aide l'écurie en réalité quoi, sur les week-ends de course. Ce qu'on fait au simulateur, ça va être reproduit ensuite en réalité. Donc il faut être super précis.
Julien ?
Non, juste, tu disais 250 tours, c'est ça. Par exemple, pour le programme de demain, c'est l'équivalent de combien d'heures? Tu vas faire combien d'heures dans le simulateur, en gros?
Alors, une journée classique, en fait. On commence autour des 8h30-9h. 8h30-9h. Ensuite, on roule tout le matin. On fait peut-être une pause vers 10h30, une pause de 5 minutes juste pour parler avec les ingénieurs, se rafraîchir un peu, boire un coup. Ensuite, on remonte jusqu'à midi et demi. Et ensuite, on fait une petite pause à manger, une petite heure pour manger. Et ensuite, on repart toute l'après-midi jusqu'à peu près 19h en général. Ça peut arriver parfois qu'ils aient beaucoup de choses à tester et que ça se termine à 20h, 20h30 parfois. Donc, c'est un peu long.
C'est pire que Schumacher à ses grandes heures, là, chez Ferrari, à Fiorano. Là.
Mais non, mais c'est vrai que le simulateur, pour ça, c'est exceptionnel. En fait, on peut rouler quand on veut, on peut rouler toute la journée, toute la nuit. On peut ne jamais s'arrêter, en fait, du moment que tout le monde, que toutes les personnes ne sont pas fatiguées. Tu peux rouler, tu peux tester plein de choses, tu peux te sortir sur le circuit, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de danger. Donc, c'est pour ça qu'on exploite les journées vraiment de tôt le matin à vraiment parfois très tard le soir.
C'est quoi l'élément, la chose qui t'a la plus étonné en découvrant cet univers de la F1? Parce que j'imagine que la monoplace, tu commences à connaître. La Formule 2, c'est quand même des voitures qui sont performantes. Quand on passe à l'échelon supérieur, la Formule 1, il y a encore des choses où on se dit waouh, ça, je ne m'y attendais pas.
Ah oui, clairement. La F1, c'est encore un monde au-dessus. C'est un monde à part, en fait. C'est fou. C'est un truc de fou. Moi, quand je suis arrivé à Budapest pour ma journée de test, il y avait le motorhome encore, le gigantesque motorhome de Alfa Romeo avec peut-être une 30-35 personnes pour travailler pour une seule journée pour ma voiture. Donc, c'était énorme. Tous les ingénieurs d'Alfa Romeo, les ingénieurs de Ferrari, j'avais un physio, il y avait tout en fait, c'est un truc de fou. Et la F1, c'est un monde à part. La voiture est beaucoup plus puissante, il y a beaucoup plus d'aéro, on arrive plus vite, on freine plus tard, on passe plus vite, on accélère plus tôt. Enfin, c'est une autre planète. Donc c'était un jour incroyable et j'espère que ça se reproduira dans le futur, ces journées de test. Et c'était, j'oublierai jamais.
Est-ce que Julien, tu veux rajouter quelque chose?
Non, on peut.
justement, pour affronter ces contraintes, tu nous disais ça freine plus tôt, ça accélère, ça freine plus tard, ça accélère plus tôt. Physiquement, il faut beaucoup travailler?
Oui, il faut beaucoup travailler, surtout pour le coup. Il faut un coup assez solide parce que franchement, on prend beaucoup, beaucoup de jets dans les virages rapides et aussi dans sur les phases de frein. Ça arrive très fort et ça freine très tard. La tête, elle part vers l'avant. Hein. Chaque freinage, c'est un truc de fou. Et le cardio, c'est hyper important. Moi, j'ai testé au Hungaroring. Donc, c'est un circuit assez serré pour la F1. Donc, on passe de virage en virage ultra rapidement et quasiment pas de ligne droite pour la F1 là-bas. Et ça monte assez fort le cardio. Après, par rapport à la F2, il y a la direction assistée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué, moi, parce qu'en termes de ressenti, direction assistée, il y a, voilà, ça tourne vraiment facilement. On n'a pas besoin de mettre de force dans le volant. Et c'est vraiment simple au niveau des bras, du coup. Donc sur ça, c'est moins dur que la F2. Par contre, pour tout le reste, même pour le cerveau, je pense que tout arrive super vite. Il y a beaucoup de paramètres à gérer. Et mentalement, c'est très fatigant, la F1.
Et justement, est-ce que tu fais une préparation physique pour la F2 ? Est-ce que quand tu sais que tu fais des journées comme celle-ci, comme tu as fait à Budapest, tu te prépares différemment en amont ou pas du tout ? Physiquement, je parle.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait qu'une journée de test. Après, je pense que la préparation physique, elle est similaire entre la F1 et la F2. La F1, c'est bon, pour les pilotes de F1, les courses sont plus longues. Donc, ils travaillent quand même beaucoup le cardio et beaucoup le cou. Après, à part ça, moi, je travaille beaucoup le haut du corps, les bras, un peu plus de force pour la F2. Et donc, pour la F1, c'est que du plus, même si la direction est plus soft, plus tranquille. Pour moi, c'est que du plus. Je suis encore plus prêt physiquement. Donc, c'est similaire.
J'ai une petite question extra F1 et F2. Je ne sais pas si Julien partagera ma sensation. Tu viens de Grasse, je me trompe pas.
C'est ça, c'est ça.
C'est pas loin de Nice. Et je trouve que tu as un accent qui ressemble un petit peu à celui de Fabio Quartararo. Vous seriez pas croisés tous les deux parce que vous n'êtes pas très très loin en âge, hein, il y a 4 ans d'écart.
Bien sûr, bien sûr. On s'est pas croisé, si peut-être une fois, mais je le connais bien. Sinon, enfin, on s'est contacté sur les réseaux sociaux et maintenant, on échange souvent et tout quand je fais des performances ou quand lui, il a été champion du monde.
Oui, il en a fait quelques-unes, lui.
Exactement, exactement. Voilà. Donc du coup, on échangeait pas mal. Et il était venu me voir, enfin, il était venu voir la course de F1 à Monaco. Et il avait vu ma victoire à Monaco. Et c'est comme ça après qu'on s'était rencontrés, tout ça. Donc, non, franchement, c'est cool d'avoir Fabio dans le sud de la France, champion du monde de moto. Enfin, c'est exceptionnel. Et il a commencé sur le même circuit que moi, à la Sarre, près de Grasse. Donc, j'espère faire comme lui. J'espère faire comme lui.
Et justement, sa trajectoire, c'est quelque chose qui peut t'inspirer. Ses méthodes, peut-être aussi.
Carrément, carrément. En fait, c'est de la moto, donc en termes de pilotage, en termes de réglage, tout ça, ça n'a rien à voir avec la F1. Mais en fait, c'est la façon d'être. Lui, c'est un pilote, on a à peu près le même parcours, on était très jeunes dans les catégories. J'espère arriver au plus haut niveau comme lui. Ensuite, voilà, il s'est très vite adapté aussi et il a été champion du monde. Moi, j'aimerais bien m'inspirer de Fabio Quartararo, arriver en F1, faire 2 années, deux très bonnes années, mais d'apprentissage, et la troisième année, être champion. Ça, je ne sais pas si ce sera possible, mais on verra, on verra.
Mais
Moi, perso, je signe pour toi.
ce qui est sûr, Gilles, t'en parlais juste avant, il y a beaucoup de points communs entre Théo et Fabio Quartararo, et il y a beaucoup de points communs dans la prise de recul aussi. Ces deux pilotes qui sont très intelligents et qui arrivent à voir ce qui leur manque, ce qu'ils ont comme force pour réussir. Et ça, c'est un vrai point commun entre les deux et c'est très encourageant, je pense, pour Théo pour la suite.
Mais d'ailleurs, on a parlé de préparation physique là il y a quelques minutes avec Théo. Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation mentale, Théo Pourchaire?
Oui, il y a beaucoup de préparation mentale. Après, moi, je fais pas vraiment d'exercice de préparation mentale. C'est quelque chose que j'ai réussi à travailler au fur et à mesure des années. J'ai l'impression, c'est peut-être que je l'ai ou que je l'ai pas, mais c'est quelque chose, en fait, on est avec ou pas, en fait. C'est très compliqué moi, j'aime pas trop les exercices de préparation mentale, tout ça. J'essaye juste d'être serein, d'être super concentré sur les courses, de faire ce que j'ai à faire calmement, proprement, pas faire d'erreur. En fait, c'est quelque chose que je travaille un tout petit peu dans mes séances de sport, jamais rien lâcher quand c'est très dur, Voilà, c'est, je me pousse au maximum à chaque séance de sport. Ça, je pense que ça m'aide un peu mentalement. Au simulateur, de ne pas faire d'erreur, faire voilà, 50 tours sans faire un track limit ou sans faire une erreur de pilotage, ça, je pense que ça aide aussi pour la concentration. Mais je n'ai pas d'exercice précis et c'est quelque chose. Voilà, ce sport, je suis parti très jeune de chez moi pour les courses de karting à l'étranger. Je ne savais pas parler un mot d'anglais, d'italien pour le karting. Voilà, c'était très, ouais, très italien. Donc, j'étais obligé, en fait, j'étais avec des adultes, voilà, de progresser sur ça, en fait, d'être sans mes parents. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se forme.
Ça t'a forgé. Ouais.
Voilà, exactement. Exactement.
Ouais, quand on fait du karting, il faut apprendre l'italien. Quand on fait de la moto, il faut apprendre l'espagnol dans ces jeunes années. Une dernière question, Théo, avant de te laisser retourner à ton simulateur. Évidemment, on évoque le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Quel est ton favori pour cette couronne 2021, sachant qu'il y a désormais 19 points d'avance pour Verstappen?
Alors.
Ça restera entre nous, t'inquiète.
Non. Ça, c'est une question compliquée en ce moment, j'ai l'impression. Mais bon, honnêtement, je n'ai pas de préférence entre les deux. En fait, je n'ai pas vraiment de pilote préféré. Je les adore, hein, vraiment, les deux, je les adore. Je pense que Verstappen est favori pour moi. Verstappen est favori parce que Red Bull fait une très bonne saison. Lui aussi, c'est un pilote exceptionnel. Lui et Hamilton, ils sont dans une autre catégorie pour moi. Ils donnent vraiment tout à chaque course et ils sont vraiment impressionnants. Après, c'est pas fini, honnêtement, c'est pas fini. Je pense que ça peut jouer jusqu'à la dernière course. Et j'espère, en tout cas, moi, je suis juste fan de F1. Donc, moi, je suis là en drapeau blanc et je regarde mes courses. Tu vois.
Bah, ça revient un peu à ce qu'on disait, Gilles, hein, sur la dernière course.
D'accord. Bah, oui, c'est vrai, tu as raison. Bah, merci beaucoup, Théo, en tout cas, d'avoir été avec nous. Tiens, si tu veux, je te donne les rendez-vous du week-end. Tu es toujours avec nous?
Oui, oui.
D'accord, ok. Non, j'avais un petit doute. Donc, Grand Prix du Brésil, on attaque vendredi. La première séance d'essai libre à 16h30, heure française. Hein, je ne sais pas où tu seras, toi. Et la qualification, attention, la qualification, c'est vendredi à 20h. Parce qu'il y aura sprint qualifying le samedi à partir de 20h30 et le Grand Prix, la course, à partir de 18h à Interlagos. Merci beaucoup, Théo, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Et puis, on te dit le fameux mot de Cambronne pour les deux derniers meetings de la saison. En gros, ça veut dire merde pour les dernières courses en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi.
Bon, bah merci beaucoup.
Salut Théo.
À bientôt.
À bientôt.
Et donc, mon cher Julien, voilà, on a les rendez-vous de ce week-end. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci, Julien, d'avoir été avec nous. C'était intéressant, complet.
Merci à toi, Gilles. C'était un plaisir, encore une fois.
Et ben, écoute, on donne rendez-vous à ceux qui nous suivent la semaine prochaine. Et d'ici là, la célèbre phrase des fous du volant, on coupe le contact. Salut.
Salut à tous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.